n'atterrirait pas facilement. L'effort consenti pour atteindre le hangar au bras de John l'avait renvoyé dans les limbes. Il lui avait pourtant dit. Elle se dressa, les pieds nus, mal assurés, sur le parquet de la chambre, repoussa les rideaux qui voltaient dans la brise. La lumière du jour pointait au loin. Le point d'eau déserté par les grands mammifères appartenait aux oiseaux. Et une voiture approchait. Le 4x4 de John partit plutôt à la rescousse des rhinocéros. Encon déposa le Sud-Africain devant le lodge avant de poursuivre sa route vers l'ancienne mine et les territoires plus à l'est, où les lions s'étaient abreuvés à la mare empoisonnée. Solana attendit sur le rebord du lit, la tête lourde. Elle voulut prévenir Azuel de son accident, il devait se faire un sang d'encre, puis oublia. John grimpait l'escalier à pas de velours pour ne pas la réveiller. C'est elle qui se manifesta dans la semi-pénombre de la chambre.
Tu les as retrouvés ?
Non, dit-il en approchant. Enfin, John était blême.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
S'inquiéta Solana.
Les rhinocéros sont morts.
Le long corne, la mère, son bébé. On les a découverts près du bosquet où le drone les avait repérés. Trop tard.
John avait failli à sa mission, et elle commençait à le connaître.
Et les braconniers ?
Ils ont pris la fuite, dit-il d'une voix blanche. Avec les cornes. Le visage de John faisait presque peur. Le cœur de Solana se serra. On aurait dit qu'il allait pleurer.
Chapitre 3. Rainer Duplessis avait créé Executive Outcomes à la chute de l'apartheid, une société de sécurité privée qui louait les services de mercenaires dans différents conflits en Afrique. Son neveu, Joost, se montrant vigoureux et plus porté sur l'aventure et l'argent que sur les droits de l'homme, Rainer l'avait pris dans son groupe armé jusqu'à en faire son fidèle second. L'ancien commandant avait appris à Joost l'art de la guerre, les techniques d'embuscade et de déploiement sur une cible, comment tuer un homme à main nue, au couteau. Enfin, là des guerres africaines, les belligérants se montrant moins gourmands ou se faisant vieux, Rainer Duplessis s'était recyclé dans le trafic d'animaux. L'organisation du scorpion, horizontal, allait de la chasse illégale à l'emballage dans les hangars de sociétés de transport bidon, aux colis camouflés à l'arrière de camions, le plus souvent entre les cabines et les palettes de bière ou de coca. Les convois partaient pour l'Afrique du Sud, la Zambie ou le Mozambique, où des employés corrompus assuraient les vols vers Hong Kong, plaque tournante du trafic vers la Chine. Un business florissant malgré les lois de préservation de plus en plus sévères. Mais les opérations sur le terrain restaient son ADN. Le scorpion avait engagé les meilleurs à chaque poste. Doigt de fée, le zambien se chargeait des ablations, Wan, l'unijambiste, des colis et du recrutement des pisteurs dans les bars ou les villages, le chinois du piratage informatique, B5 de l'abattage des bêtes, Otto du pilotage, un as capable de poser son Piper au milieu de la brousse, l'africaneur Peter des faux papiers et de la logistique. Il y avait aussi ses deux gardes du corps, des anciens mercenaires sud-africains qui avaient œuvré pour lui. Une équipe dirigée sur le terrain par son neveu Joost, alias le Baas. Ces hommes usaient de sobriquets faisant d'eux des fantômes sur les bases de données des brigades de répression, ne restaient jamais longtemps dans le même pays où ils pouvaient malgré tout se faire prendre, et s'en sortaient généralement avec de simples amendes. Des pions tombaient parfois au champ d'honneur, tués par les rangers quand ils se mettaient à jouer au cow-boy, mais le scorpion restait maître de l'échiquier. Jusqu'à l'opération namibienne, dont M. Zeng était l'un des principaux commanditaires. 20 kilos de cornes de rhinocéros et celle du plus gros spécimen en liberté, le fameux longue-corne. Joost avait envoyé des pisteurs autochtones en repérage dans les territoires de la Kaza. Seulement, à la différence des autres réserves où ils avaient posé leurs pièges, aucun n'était revenu de Wild Bunch. Joost avait mené sa petite enquête, sans résultat, sinon des rumeurs locales parlant d'hommes lions qui sévissaient là-bas. Des foutaises pour le scorpion. Soupçonnant plutôt les San de la Tam d'être dans le coup, Rainer Duplessis avait décidé de sacrifier un pisteur local, Xazé, pour leur faire porter le chapeau auprès de la police. Si la Tam avait une milice privée et entraînée, le liquidé pouvait se montrer périlleux, d'autant qu'il avait l'avantage du terrain. Le Chinois avait heureusement pris la main sur leur réseau de surveillance informatique, des caméras jusqu'aux pièges photos disséminés le long du corridor de Bois-Boita. La Tam et sa clique ne devaient rien comprendre, et les